la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Le stéthoscope
de Fabien et Carole. Radio
Lac. Aujourd'hui, on plonge dans un débat qui divise les open space et les bureaux du monde entier. Écouter de la musique en travaillant, bonne ou mauvaise idée, Carole?
Je dirais bonne. Mais bon, le problème, c'est que moi, par exemple, quand j'écoute de la musique, j'arrive pas forcément à me concentrer sur mon
travailler.
Sujet.
Ouais. Bon, alors, d'un côté,
même d'ailleurs, quand il n'y a pas de musique,
oui, c'est ça, il n'y a pas besoin de
j'ai
musique.
J'ai du mal déjà avec la concentration. Donc, franchement, si tu mets de la musique, c'est compliqué.
Il y a deux écoles, deux clans. Hein. D'un côté, nous avons les adeptes de la playlist au boulot, ceux qui, dès qu'ils s'installent, enfilent leurs écouteurs et se plongent dans leur univers musical. Pour eux, la musique est une source de motivation, un moyen d'échapper au bruit ambiant et d'entrer dans une zone de concentration optimale. Encore faut-il avoir un métier qui te le permette. Voilà, absolument. Une étude a même montré que la musique pouvait améliorer l'humeur et la productivité, notamment lors de tâches répétitives. Mais attention, tout n'est pas si simple. D'autres recherches suggèrent que la musique, surtout avec des paroles, donc on parle de chansons bien évidemment, peut distraire et nuire à la compréhension et à la mémorisation. Imaginez, vous rédigez un rapport important tout en écoutant votre chanson préférée, et bien sachez que vous risquez de remplacer des mots par les paroles de la chanson sans même vous en rendre compte.
Ah non, t'imagines.
Mais ça nous arrive.
Ouais.
Enfin, pas forcément avec de la musique, mais t'es en train d'écrire un truc, il y a quelqu'un qui parle de quelque chose.
Bien
ça
sûr.
T'est jamais arrivé d'écrire ce que dit la personne.
Ouais, t'as écrit n'importe quoi.
Voilà, exactement.
T'écris n'importe quoi et tu fais n'importe quoi. Et du coup, tu ratures.
Donc, il faut faire gaffe. Et puis, il y a le choix de la musique. Hein. Certains préfèrent le classique, d'autres le jazz, le rock ou même le métal. Trouver une playlist qui convient à tout le monde peut vite devenir un casse-tête, sans oublier ceux qui chantonnent ou tapent du pied en rythme aux grandes dames de leurs collègues. Donc, ça peut vite être problématique, la musique au boulot, finalement.
Oui, c'est vrai.
Alors, que faire? Faut-il bannir la musique au travail ou l'encourager? Eh bien, comme souvent, la réponse se trouve probablement dans la modération et l'adaptation. Si la musique vous aide à vous concentrer, bien privilégier des morceaux instrumentaux ou des genres qui ne vous distraient pas, et surtout respecter vos collègues en utilisant des écouteurs et en évitant de transformer le bureau en discothèque.
Et voilà. Comme quoi l'open space n'a pas que du bon.
C'est vrai.
Mettez vos écouteurs.
Moi je dirais qu'il y a surtout du mauvais.
Ouais, c'est sûr. Moi c'est pareil. On n'est pas des fervents admirateurs de l'open space tous les
jours. Pas vraiment, c'est pour ça qu'on a quitté l'open space pour avoir notre propre bureau.
On a migré dans un bureau que personne ne voulait parce qu'il était dénué de climatisation, et nous on a dit on préfère la chaleur au bruit.
Que les autres.
Voilà.
On préfère la chaleur que nos collègues, c'est clair.
Non, on parle de bruit à la base, Fabien.
Bon, dites-nous si vous avez la chance ou pas d'écouter de la musique au boulot, peut-être la radio, votre radio préférée, bien sûr. 079-918-3000 pour réagir sur le WhatsApp de Radio Lac.
Le meilleur de Lac, en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Je fais n'importe quoi, ça ne s'arrange pas, mais je me sens vieux quand je me sens mieux. Comme ça, même si ça va pas, que je me sens Dieu quand je suis à toi. C'est n'importe quoi, moi je m'en bats, pour que dans tes yeux je reste bien là. Je fais profil bas, ça ira comme ça. Si je baisse les yeux, je ne te verrai pas.
C'est ton sujet de prédilection, Carole, le sommeil, et c'est le sujet de l'étude du jour.
Ah oui, bah forcément, ça fait plus débat. Hein. Le sommeil est une composante essentielle à la bonne santé de notre cerveau. Mais combien faut-il d'heures de sommeil pour que notre cerveau aille bien? Alors, et c'est ça, en fait.
Là, on ne parle pas de l'état général, on parle vraiment du cerveau.
Le cerveau. Ouais. Là, véritablement, c'est une étude que je sors de mon chapeau ce matin. Une étude sur le sommeil et le cerveau, à savoir le nombre d'heures maximum qu'il faut avoir pour ne pas endommager son cerveau. À ton avis?
Allez, je dirais, là si on parle vraiment que du point de vue cerveau, peut-être 4-5 heures?
Non, plus.
Ah, c'est plus.
Ouais, donc en fait, on peut le dire, nous endommageons notre cerveau.
On ne dort pas assez, allez, 6 heures.
Plus.
Ah non, ouais, 7 heures.
Ouais, ouais, c'est 7 heures. 7 heures. 7 okay. heures. Il faut dire que beaucoup d'entre nous sont en dessous des recommandations minimales en la matière parce que, comme le rappelle donc cette étude, on considère en moyenne qu'une nuit de 7 heures, est propice à un équilibre acceptable pour le cerveau. Voilà, les travaux d'une équipe de l'université de San Antonio aux États-Unis ont mis donc en avant un rôle probable entre un sommeil plutôt long et l'altération de compétences cognitives, le développement de démence et même le risque de dépression. Donc si c'est trop long, c'est pas bon. Au-delà de 8 heures, apparemment, c'est trop.
Ah oui, donc il faut ni trop ni pas assez.
Vraiment, le chiffre okay. idéal, 7 c'est heures. 7 heures okay. de sommeil. En dessous, on altère le cerveau, on lui fait mal. Au-dessus, eh bien, on lui fait mal aussi parce qu'il y aura trop d'heures de sommeil.
Voilà de quoi nous mettre la pression au moment de se coucher. Voilà, il faut 7 heures, pas
chiffre
plus. 7. Pas moins.
Okay. Exactement. Voilà.
Bon, et si vous dites le matin, dites donc ceux-là, ils sont vraiment. Ils ne sont pas futés les deux du matin hein, sur Radio Lac. Eh bien, c'est parce qu'on ne dort pas.
C'est ça, exactement.
Voilà,
c'est
tout simplement.
Pour ça, parce qu'on manque de sommeil. Et c'est bien pour ça qu'on va pouvoir porter plainte contre notre propre patron. Tu vois ce que je veux
dire?
C'est
à cause de lui.
Exact.
Si on est deux bêta.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Si des fois on perd nos mots, si des fois on n'est pas dedans, si des fois on croche. C'est à cause de lui.
Tu sais ce qu'il va nous dire, vous avez qu'à vous coucher plus tôt.
C'est ça.
Voilà, il n'aura pas tort.
C'est vrai.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch. I don't know if I can figure out all the things are coming right through me. I've been wondering what's it all about. All the steps are going with my needs and it feels so right.
Make me stop now. Down, down, down on my knees.
l'heure des réveils présente.
Aujourd'hui dans le flashback, retour sur une icône du fun et de la coordination, car oui, il en fallait beaucoup de la coordination pour faire du hula hoop.
Oh, le hula hoop. J'ai adoré le hula hoop. Bon,
je te vois bien.
Ça prenait de la place hein, quand même, parce que ce cerceau, il était passablement grand quand même.
Hein. Oui, c'est ça. Bon, après, il se rangeait facilement sous le lit, pourquoi pas. Il fallait surtout bien s'exercer, ce cerceau en plastique qui nous a fait tourner la tête et le bassin aussi.
C'est vrai.
Pendant des générations, et je le disais, tout était question de coordination. Hein.
Ah oui, c'est ça. Il fallait être bien coordonné et surtout, mettre le premier mouvement de bassin, c'était très important.
C'est le premier qui faisait un peu tout le reste, finalement. Et puis, il fallait garder le rythme ensuite. L'histoire du hula hoop, et là, vous allez peut-être être surpris, eh bien, elle remonte à l'Antiquité. Les Grecs et les Égyptiens s'amusaient déjà avec des cerceaux en bois ou en osier pour faire de l'exercice. Mais le véritable boom du hula hoop, c'est évidemment en 1958, quand une entreprise américaine lance un modèle en plastique léger. Et là, c'est l'explosion, véritablement. 100 millions d'exemplaires vendus en seulement 2 ans. Tout le monde veut sa dose de hula hoop. Des enfants aux stars d'Hollywood, c'était véritablement à la mode fin des années 50, début des années 60.
Ouais, mais le mien, il était rose. Rose bien flashy avec une espèce de bandeau un peu blanc comme ça, et du coup blanc et rose, c'est magnifique.
Très beau, mais oui.
Ça faisait très toutou youtou.
C'est
ça, faisait
vrai.
Très Véronique et Davina.
Et tu fais bien de parler de cette époque des années 80, puisque nous on n'était pas là dans les années 60 pour les débuts du hula hoop. En revanche, ce hula hoop, après avoir connu une période d'essoufflement, est revenu véritablement à la mode dans les années 80 avec l'essor justement du fitness qui a relancé un petit peu l'attrait pour ce cerceau. Dans les festivals de musique aussi, on le retrouvait dans les années 80. Il y avait vraiment cette mode avec des versions lumineuses hein, qui avaient des petites lampes.
Tu nous imagines, nous, au Paléo, avec notre hula hoop.
Écoute, on peut relancer la mode peut-être cet été.
Pourquoi pas,
qui sait. Voilà, il y a même des compétitions sportives qui existent encore aujourd'hui, car oui, le hula hoop n'est pas mort. Vous avez peut-être des souvenirs particuliers. Partagez-les avec nous ce matin.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
The voice forever, when it's around like it's no better. And on the story goes from there. And that's what I was told. But I've grown up here, I've grown wiser. With gray and hair, just getting tired. No one's got this figured out yet. No one yet has got this figured out. With no regrets, I'd like to state the obvious. Love's both the worst and best thing here for all. I just wish that I'd been told. With 7 years and more to come, your wounded heart starts growing numb. You fought it all these years, but now it's time to separate ways. If love's a game, this time I won't play. Moving on, I'll go my own way. And on and on and on the story goes from there. That's what I was told. I'd like to state the obvious. I just wish that I'd been told. I'd like to state the obvious. Love's both the worst and best thing here for all of us.
Sur Radio Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Les états de la matière, ça vous parle ça? Non, pas du tout. Bah écoutez les explications d'Éric Ashkar, bonjour.
Bonjour Sophie, oui.
Éclairez-nous s'il vous plaît.
Alors, l'éclairage.
On a besoin de vos lumières au plus vite parce que là vous m'avez perdu. Alors... Les états de la matière, là, moi, c'est fini, je suis plus là.
Alors, les états de la matière, il y en a trois. Donc, le gaz, oui. Le liquide, oui. Et le solide.
D'accord. Alors qu'est-ce... on comprend mieux.
Qu'est-ce qui les différencie? Alors,
non mais je vous dis, moi je vous écoute, hein, c'est tout. Mes cours sont très très loin, hein, j'ai oublié, alors, c'est fini.
La différence entre un solide, alors on va décrire un solide. Un solide est constitué d'atomes.
D'accord.
Les atomes sont tous liés entre eux. Donc c'est comme un cristal. Je vais donner un exemple de cristal quand on voit à l'école avec des petits atomes empilés comme des billes qui sont régulièrement empilées et sont soudés les uns aux autres.
Oui.
La structure de tous les atomes est très bien organisée en général. Pas toujours, mais je dirais une majorité. On prend le diamant, c'est le cas extrême où c'est ultra bien organisé. Ensuite, pour un exemple concret, qu'est-ce qu'un solide? Un morceau de sucre? Un rail de train?
Oui, oui.
Un mur en béton?
D'accord.
Maintenant, on passe au liquide.
Oui.
Alors, la différence entre le solide et le liquide, c'est que le solide, les atomes sont les uns contre les autres, mais ne sont pas réellement soudés les uns aux autres, mais peuvent, comme on prendrait des billes dans un sac plastique, quand on bouge le sac plastique, les billes se déplacent les unes par rapport aux autres.
Oui, c'est ça.
Eh bien, imaginons que les billes sont les atomes, et en fait, dans un liquide, les atomes peuvent bouger les uns par rapport aux autres. Et contrairement au solide, qui a une forme bien précise, le liquide va prendre la forme du contenant. Les atomes ne sont pas forcément aussi bien organisés que dans le solide. Et maintenant, on va passer au gaz. Alors, le gaz, c'est encore plus fumeux.
Si je peux...
Jeu de mots. Alors, le gaz, en fait, les atomes ne sont pas collés les uns aux autres. Ils sont en mouvement, je pense au mouvement brownien, qu'on a certainement dû apprendre à l'école. C'est-à-dire que quand on regarde sous une lame de microscope des poussières avec l'air, on voit que les poussières, elles bougent dynamiquement parce que les atomes d'air vont taper dedans et vont déplacer les petites poussières. Bien sûr, ça, il faut le voir au microscope avec des... toutes petites particules. Et donc les atomes sont très distants des uns des autres, ils sont en mouvement, ils sont pas collés les uns aux autres, ils sont désorganisés et le volume est clairement indéfini, donc le volume d'un gaz, donc il va prendre la forme du contenant. Donc pour terminer, le gaz structuré, le liquide moins le gaz non structuré, et les volumes et les densités diffèrent. Un solide va être généralement plus dense, j'ai bien dit généralement mais pas toujours, le liquide un peu moins dense, c'est-à-dire le poids divisé par le volume, et le gaz encore moins puisque les atomes sont beaucoup plus écartés les uns des autres.
Ok, bon, c'est clair avec vous.
Voilà.
Mais il faut quand même que je vous réécoute en podcast pour que ça rentre. Merci.
Et je crois que moi aussi, il faut que je me réécoute.
C'était Éric Ashkar, à retrouver donc sur la page Il suffit de demander. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
ce qui trie du lot sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Attention, série absolument culte dans le flashback du jour.
Une série qui a duré 12 saisons et qu'on adorait, cette série, c'est Arabesque. Bon alors, petit retour forcément sur Arabesque, on n'en avait pas encore parlé dans ce flashback, cette série culte des années 80, voire tout début 90, qui a marqué les amateurs de mystère. Moi j'adorais cette série, je crois que toi aussi.
Ouais,
imaginez une petite ville paisible du Maine, hein, Cabo Cove, où les crimes semblent plus fréquents que le café du matin. Forcément, il y en avait beaucoup hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Heureusement que c'est pas la même chose dans notre quartier, mais au cœur de tout ça, une héroïne, pas comme les autres. Elle s'appelle Jessica Fletcher, bien sûr. Il s'agit d'Arabesque, une ancienne prof devenue romancière à succès qui a le don ou la malédiction, hein, c'est au choix, d'être toujours là où il ne faut pas, enfin sauf pour la justice, interprété pardon, par Angela Lansbury. Jessica Fletcher n'avait ni badge à l'époque, ni arme, mais pourtant elle avait une intelligence affûtée et surtout un carnet d'adresses qui ferait parler Scotland Yard, parce qu'elle résolvait tous les meurtres. Bien sûr, 12 saisons, ça a duré 300 épisodes. Arabesque a captivé les spectateurs et ses enquêtes bien ficelées, hein, d'ailleurs son charme un peu old school et son ton à la fois cosy et malin. T'avais envie de t'installer avec elle, hein, derrière sa petite machine à écrire. Bref, moi j'adorais cette série. Je crois que toi aussi, et je pense qu'on a fait revivre quelques souvenirs.
Flashback à retrouver en podcast replay sur radiolac.ch.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
I was loneliness and sickness of a life and all its pain. Cause the chase no happy ending, although we try. And the day among the faces I saw yours, it was so bright. I realized I was no lonely after all. Don't stop giving me, don't stop giving me love. Cause I'm tasted about to send it back to where it's from. Oh, just don't stop giving me, don't stop giving me hope. Cause the world seems to steal it away from our soul.
Radio Lac.
Avec l'histoire de ce voleur, l'histoire insolite de ce voleur, ça s'est passé à Genève avec un vol qui remonte à 2020 où un jeune homme en proie quand même à des problèmes psychiques, hein, c'est ce qui nous est rapporté dans cet article notamment du 20 minutes, a volé un sac avec à l'intérieur une montre. Il s'est dit chouette, une montre, ça se revend bien, je vais pouvoir m'acheter un petit peu de hashish.
Très bien.
C'est un très consommateur bien. De hashish, oui. De marijuana, si vous préférez, ou de shit plus vulgairement.
D'accord, très
voilà.
Bien.
Donc il s'est dit tiens, je vais revendre la montre, je vais m'acheter une petite dose. Il a revendu la montre 50 francs.
Oui.
Bon, ne sachant pas vraiment quelle était sa valeur, il s'est dit qu'il avait fait certainement une bonne affaire. Sauf que cet homme a été arrêté, il est en plein jugement actuellement pour le vol de ce sac et notamment de cette montre
à
qui valait 1 million de francs.
Mais c'est une blague.
Donc ce qu'il a revendu pour 50 francs de hashish, de cannabis, eh bien en fait la montre valait 1 million de francs.
Et le souci, c'est qu'on n'a pas retrouvé celui donc qui a acheté la montre.
qui a fait l'affaire du siècle.
Mais non.
Qui a fait le coup du siècle. Bah,
j'imagine
oui.
Qu'on n'a pas retrouvé la montre.
Une Audemars Piguet estimée entre 500 000 francs et 1 million de francs, plus exactement. Mais a priori, on est plus vers le million de francs.
Mais quand t'as une montre à 1 million, qu'est-ce qu'elle fout dans ton sac,
bah,
déjà?
Je sais pas.
Enfin, je veux dire, moi, si j'ai une montre à 1 million, déjà, j'aurais bien du mal à la porter, mais quand bien même si je la porte, je la laisse pas traîner dans mon sac.
Ben oui, mais peut-être que le monsieur ou la dame était en train de faire du sport, enfin, je sais pas. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, tu ne laisses pas effectivement une montre à 1 million dans un sac.
Je ne pense pas.
En tous les cas, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la Audemars Piguet a été retrouvée quelques jours après le vol.
Ouais.
C'est-à-dire que, bon, les policiers ont été très efficaces, la montre a été retrouvée. Elle a été évidemment redonnée à son propriétaire, ce qui n'a pas empêché ce voleur pas très malin de se faire pincer et d'être jugé.
Voilà. 50 balles sur une montre à 1 million. génial, elle est belle l'affaire.
Le mec a le sens des affaires.
Oh là là.
Hein, vraiment.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
meilleur des réveils présente.
Difficile d'évoquer le monde du jeu vidéo sans parler de Mario. Depuis plus de 40 ans, le plombier moustachu de Nintendo incarne l'aventure, la plateforme et le fun intergénérationnel. Eh oui, Mario, tout commence en 1981. Est-ce que tu pensais que c'était aussi vieux, Carole ?
1981. Ouais, écoute, dans les années 80, non, je t'avoue que ça, c'est arrivé chez moi quand même beaucoup plus tard.
Plus tard, hein. Oui, ouais. Bah, chez moi aussi.
Dans au début des années 90, je crois.
En 81, avec Donkey Kong, on l'appelait encore Jumpman. C'était l'ancien nom de Mario. Et c'est en 1985, quelques années plus tard, avec Super Mario Bros, que le phénomène explose des mondes colorés. Et une jouabilité révolutionnaire pour l'époque et une musique inoubliable signée Koji Kondo. C'est la recette du succès pour Mario qui cartonne.
Ouais.
Depuis là, il n'a pas cessé d'évoluer, passant de la 2D à la 3D. Il y a eu Super Mario 64, tu t'en souviens
bien
peut-être, qui a réinventé le jeu de plateforme avec aussi Super Mario Galaxy et proposant un monde ouvert avec Odyssey, sans oublier les innombrables spin-off Mario Kart. J'adore.
Bien sûr, Mario Kart.
Incontournable.
Mario Kart, c'est fou parce que c'est quand même quelque chose aussi où là, tu peux aussi te faire plaisir en famille.
C'est ça.
Ah voilà. Oui.
Et ça, c'est hyper drôle de jouer à Mario Kart en famille. Mario Party, Super Smash Bros. Bref, Mario est absolument partout. Et pourquoi un tel succès ? Eh bien, parce que Nintendo a su innover tout en gardant l'ADN du jeu accessible et intuitif. Que vous soyez un joueur nostalgique ou un néophyte, Mario est toujours là et ce, malgré les générations. Ça fait plus de 40 ans que ça dure et Mario continue de nous régaler.
Et Mario a un frère, hein, c'est Luigi bien sûr.
Oui.
D'ailleurs, je crois, hein, si je ne m'abuse, hein, je veux pas trop, enfin, je suis pas non plus à fond dans le monde des jeux vidéo, que non seulement ils sont frères, mais à la base c'était brother et le bros, nous.
Ah, bros, voilà, oui.
Mais en fait, c'est pas réellement bros, c'est bro. C'est bro tout simplement. Ouais. On a ajouté un S parce qu'ils sont deux, je crois, il me semble. Hein, ouais. Et nous, on a tendance à dire Mario Bros, mais c'est pas le cas. Je crois que c'est bro.
On y a passé des heures. Sur les jeux de Mario, certainement que vous aussi, vous avez des souvenirs à partager. Faites-le sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac. I would like to be with them.
Sur Radio Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Voilà qui nous intéresse plus que d'habitude, puisqu'on va parler de la vitesse du son. Hein, le son, c'est notre métier. Bonjour Eric Ashkar.
Bonjour Sophie. Oui.
À quelle vitesse on vous entend là? Et où? Racontez-nous tout.
Allez, on va parler un peu de la vitesse du son. Effectivement, la radio se véhicule par le son. Alors, la lumière, on en a parlé. On avait parlé de 300 000 km/s, qui était la vitesse de déplacement. Donc, 300 000 km/s, 7 fois et demi le tour de l'équateur en une seconde. Eh bien, le son, lui, se propage à une vitesse dans l'air beaucoup plus lente. C'est un petit peu comme une tortue, un escargot. 340 mètres par seconde, c'est-à-dire 0,34 km seconde, comparé à la lumière, 300 000 km seconde. Alors, le son se propage plus lentement que la lumière, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, lorsqu'on regarde un éclair, on voit d'abord l'éclair, puisque l'éclair se propage à 300 000 km seconde, donc quasiment instantanément, quand il flash, on voit l'éclair instantanément. Et on entend quelques secondes plus tard le son, et donc quand on va compter le nombre de secondes entre l'éclair...
C'est les kilomètres, non ?
C'est la distance, c'est-à-dire 3 secondes, 3 fois 340, égale à peu près, on va dire, à peu près 900 mètres, 1000 mètres.
Ouais.
Ça va donc donner un point d'impact qui sera à peu près 1 km du lieu d'observation. Donc plus la durée est longue entre la lumière et le bruit, plus la distance est grande entre l'observateur et l'événement.
D'accord.
Okay. Ensuite, la lumière, le son, sa vitesse de propagation dépend totalement du milieu dans lequel il se propage. Puisque dans l'air, c'est 340 mètres secondes. Dans l'eau, c'est 1500 mètres secondes. La raison est simple, les atomes sont collés les uns aux autres, alors que dans l'air, ils sont très distants. Donc, quand on doit propager une onde mécanique, ça se propage plus facilement dans l'eau, donc une vitesse plus grande. Et a fortiori, quand on a un solide, je prends l'exemple du fer, donc les atomes sont liés les uns aux autres, là, on a une propagation encore plus rapide, vitesse de propagation environ 5900 mètres secondes, donc 5,9 km secondes, à comparer à un escargot de 340 mètres secondes dans l'air. Et ce qui explique pourquoi, à l'époque, les Indiens, quand ils voulaient détourner un train en Amérique du Nord...
Ils écoutaient
les rails.
C'est ça? Ah, c'est pour ça qu'ils se penchent, oui, parce qu'on se dit, tiens, mais ils écoutent quoi, là?
Eh bien, ils écoutent le rail, puisque le son se propage plus vite dans le rail que dans l'air.
D'accord.
Et donc, ils pouvaient déterminer bien à l'avance l'arrivée du train, et puis, orchestrer ce qu'ils avaient à faire. Et donc, le son n'a pas la même vitesse de propagation. Et pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que la lumière est une onde électromagnétique et le son est une onde acoustique, donc mécanique. Donc ce ne sont pas les mêmes moyens de se propager. Par contre, les comportements de vibration ondulatoire sont exactement les mêmes, que ce soit une onde électromagnétique, donc qui va utiliser l'électromagnétisme pour se propager pour la lumière, que l'onde acoustique qui va utiliser l'onde mécanique. Eh bien, les phénomènes ondulatoires sont les mêmes, même si les milieux ou la façon de se propager n'est pas la même. Et c'est ça qui est très intéressant, dans les lois de la nature.
Oh là là, il est fort ce Eric Ashkar, c'est incroyable. On vous retrouve en podcast sur radiolac.ch, évidemment, pour vous réécouter avec passion et plaisir. C'était Eric Ashkar et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
But I don't care. Maman ? Maman !
Hello, c'est Kitri Dulot sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Summertime, the weather's fine. Smile on my face, the girl is mine. I'm happy, so happy. The ring in my pocket, I'm set to go. Marry the girl, cause I love her so. Happy, I'm happy. Just build a place called home. Never be alone again until the very end. So happy. I get to her door and I ring the bell. She won't believe what I had to tell her. I'm happy. So happy. I take a deep breath, I'm doing all I can. When I get on my knee, asking for her hand. Make me happy, oh so happy. Let's build a place called home and never be alone, you see. And now it's you and me. Maybe we'll end up getting and old, but we will never ever be alone. Maybe we could buy a great big house where all the kids could play and grow. So let's build that place called home and never be alone again until the very she was in love with me until the very end. We built that place called home and never were out.